OK, la dernière fois que je vous ai parlé, on a vu ensemble la tolérance qu'on est appelé à exercer dans nos convictions. C'est pas parce que quelqu'un pense pas comme moi qu'il faut que je le rejette. Puis c'est qu'on avait vu ça là, au cours de nos discussions là. En autant que la question du salut est unanime entre les croyants, c'est-à-dire un salut qui est accessible uniquement par la foi et accordé uniquement par la grâce. Le salut, ça se résume à ça. C'est un cadeau que Dieu a fait aux êtres humains. Et on a à l'accepter en croyant ce qu'il a fait pour nous, puis à reconnaître que c'est une grâce que Dieu il nous a faite. Tous ceux qui sont sauvés sur la planète Terre, il n'y a personne qui peut dire « Ah, ben Dieu me devait quelque chose. » Fallait qu'il fasse ça. Pour ça, tantôt, il y a un des chants là, qui me fatigue un petit peu. Il y a une phrase qui dit « Ce que j'ai de meilleur, je te le donne. » On n'a rien de bon en nous. On n'a absolument rien de bon. Alors, c'est la raison pour laquelle on reconnaît que le salut, c'est une grâce, c'est-à-dire une faveur que je ne méritais pas, mais que j'ai reçue quand même. Ça, c'est ça, le salut. Alors, Philippiens 3, si vous voulez tourner là, c'est juste un petit court passage. Philippiens chapitre 3, verset 15, nous invite à marcher d'un même pas. Alors, Philippiens 3, verset 15, et je vais vous lire ça. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors, les chrétiens du monde entier sont invités à marcher d'un même pas. Dans le texte original, le mot grec pour marcher veut dire marcher en ligne. Vous savez, quand on voit des parades militaires, là, les soldats, ce qu'ils font, ils marchent en ligne. Aussi bien horizontal comme vertical, mais c'est en ligne droite, là, c'est dans tout ça. Là. Alors, le mot grec pour marcher, c'est ça que ça veut dire, marcher en fil. Mais ça ne veut pas dire ça, parce qu'on marche en fil, qu'on est des suiveux. Mais on reste dans la juste ligne spirituelle, et on continue à progresser dans l'obéissance puis dans la sanctification. C'est ça que ça veut dire marcher en ligne. On marche selon les principes divins. OK, alors ceci étant dit, est-ce qu'il y en a ici qui aiment ça que voyager? Les autres, non? Vous aimez mieux rester chez vous? À voyager, c'est quand même plaisant. On voit d'autres choses, on voit d'autres pays, d'autres gens, puis d'autres églises, d'autres mais chrétiens. On a vu dimanche passé un couple, l'ami de Jocelyne, là, qui disait, nous, on les connaissait de vue, parce que quand on va voir Maude, ils sont là tout le temps, là. Mais c'est quand même toujours plaisant de développer avec d'autres des relations. Alors, si vous aimez ça, que voyager, je vais vous inviter à faire un voyage dans le temps. Puis ça, c'est le titre de notre message, un voyage dans le temps. Puis, on va revenir, si vous voulez bien, au début de l'Église primitive. C'est-à-dire, c'est loin. C'est qu'on recule au-dessus de 2000 ans. Là. Alors, cette première Église-là a été confrontée à une période d'adaptation puis d'acclimatisation assez exceptionnelle. On recule la première église évangélique qui a pris place dans le monde. Il a fallu que ça s'ajuste, elle-là. C'est l'Église-là. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Puis l'auteur explique que Dieu y avait établi un système avec des sacrifices qui représentaient symboliquement la repentance intérieure dans le cœur des hommes. Quand les hommes étaient repentants de leur péché, ils allaient vers le sacrificateur offrir des sacrifices. Et le sacrificateur acceptait le sacrifice, il présentait à Dieu, souvent c'est en brûlant des choses sur l'autel. Puis tout ça, ça représentait la repentance, comme je vous disais, la repentance intérieure des pécheurs et le pardon divin qui venait avec ça. Tous les pécheurs repentants pouvaient jouir du pardon de Dieu, mais c'était à travers des sacrifices. Puis c'est ça que l'Épître aux Hébreux, ça nous présente. Sauf que le besoin d'offrir des sacrifices était tout le temps là. Il fallait que constamment on ramène des sacrifices, puis on ramène des sacrifices. Pourquoi? Parce que le peuple et les sacrificateurs n'arrêtaient pas de pécher. Vous, dans votre vie chrétienne, est-ce que le jour de votre conversion, ça a été fini pour le péché? Complètement fini? Vous n'avez plus jamais péché? Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Sauf que nous, on ne corrige pas ça avec des sacrifices. On a le privilège d'entrer en contact direct avec Dieu par la prière, de lui demander pardon, puis d'acquérir le pardon qu'il nous donne. Ça, c'est la différence entre l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Alors, le péché, en ce temps-là, puis encore aujourd'hui, coupait constamment la communion entre Dieu puis son peuple. Donc, c'était clair que le monde avait besoin d'un sacrificateur puis d'un sacrifice qui était parfait, puis un sacrifice qui ôterait le péché une fois pour toutes. Alors, même si vous continuez de pécher encore aujourd'hui, vous savez que votre péché a été réglé une fois pour toutes. Ce n'est plus vos péchés qui vont vous empêcher d'aller au ciel, parce que ça a été réglé une fois pour toutes. Alors, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire quand on lit le Nouveau Testament. Alors, on voit que Dieu il a pourvu aux besoins que les êtres humains avaient en envoyant son Fils, qui était à la fois le sacrificateur et le sacrifice parfait. Puis, quand Christ il a foulé cette terre, on venait de passer de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la loi à la foi. Alors, en gros, là, c'est ça que l'Épître aux Hébreux, ça nous dresse comme un tableau. Alors, suite à sa conversion, quand Paul il s'est converti, à travers tous ses voyages missionnaires, dans toutes les églises qu'il a visitées, il y a une phrase qui peut résumer tout ce qu'il disait puis tout ce qu'il faisait. C'est dans Romains 10, 4, qui dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Alors, Christ, c'est le point final à la loi, si on veut, pour la justification de tous ceux qui croient. Autrement dit, plus besoin de sacrifice, ce qu'on avait besoin dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, plus besoin de sacrifice. Alors, dans cette église primitive-là, il y avait deux catégories de gens. Il y avait des Juifs qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais avec tout leur bagage religieux. Il y a des Juifs qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais qui ont traîné avec eux autres toutes les anciennes religions. Puis, il y avait aussi des non-juifs ou encore des païens, des gentils, des incirconcis. Ça, c'est tout des synonymes. Ça veut tout dire la même chose. Puis, ces non-juifs-là représentaient ceux qui n'étaient pas issus du judaïsme et qui n'ont aucune appartenance à cette religion. Fait que là, vous me suivez comme faux. On a l'Église primitive, on a deux catégories de gens, des juifs puis des non-juifs. Pouvez-vous vous imaginer deux minutes, on est au début de l'Église, là, les frictions qu'il pouvait y avoir entre ces deux groupes de mes croyants-là, parce que les deux groupes croyaient à la même chose. Mais pouvez-vous vous imaginer un petit peu les frictions qu'il pouvait avoir? Et lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, curieusement, entre croyants, ça arrive encore qu'il y ait des frictions. Puis on ne parle pas de salut, là, parce que d'habitude, les chrétiens sont d'accord pour la même chose au niveau du salut. J'ai été sauvé par la foi, moyennant la foi, puis par grâce. Tous les chrétiens pensent tous la même chose, sont tous d'accord sur la même affaire. Mais pourquoi d'abord? Il y a des divisions dans les églises. Pourquoi ça arrive, ça? Parce qu'on est encore des êtres humains avec une chair qui n'a pas été régénérée. Puis bien souvent, il y en a qui, si tu ne penses pas comme moi, je vais te tasser de là. Est-ce que les Écritures enseignent ça? On se doit de s'examiner soi-même pour savoir qu'est-ce que je fais lorsque je rencontre quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Puis le but des deux messages, celui que je vous ai emmené la dernière fois, puis de celui-là, c'est de réfléchir à ça. OK, alors, dans Actes 8, verset 1, on lit « Après la lapidation que d'Étienne ». Que vous vous souvenez que de ça? Étienne, il confondait des Juifs. Puis là, il y en a qui étaient assez en fusil contre eux autres, contre lui, qui l'ont amené devant le Sanhédrin. Puis Étienne, il a expliqué tout ce qui s'était passé dans l'histoire du peuple juif pour en arriver à la fin à dire aux Juifs, « Mais vous êtes exactement comme vos pères étaient. Vous êtes têtus, vous avez le cou raide, vous ne voulez rien comprendre. » Alors là, vous allez dire, « Ouais, mais moi, il me semble que je suis arrêté que Philippe, j'aurais été un petit peu plus mollo. » L'idée, ce n'est pas d'être que mollo, c'est de communiquer la vérité. Et à l'occasion, ça va en choquer quelques-uns, à un point tel que dans ce temps-là, en tout cas, les Juifs, ils ont décidé là, de lapider Saint-Étienne. C'est pas qu'une petite affaire, là. Sors le gars dehors, poigne des roches, lance-les sur lui jusqu'à temps qu'il meure. C'était ça, la lapidation. Alors, on lit dans Actes 8:1, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » On sait que c'est à Jérusalem que l'Église primitive est née. Le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit ait rempli tous les disciples et les apôtres qui étaient présents dans la chambre haute. On sait qu'il y en avait 120 dans la chambre haute, plus les 12 disciples. Là, vous allez dire, comment ça, 12? Judas n'aimait plus là. Il sait qu'il s'est pendu. Oui, mais Judas, on l'a remplacé par Matthias. Donc, les 12 étaient là, accompagnés des 120. Alors là, Pierre, il prend la parole, puis il fait son discours. Puis Acte 2, 41 nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire ceux qui ont accepté ce que Pierre y est en train de dire, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes qui, du jour au lendemain, se greffent à l'Église de Jérusalem. Imaginez-vous ça. Combien qu'il y a d'habitants, c'est qu'à Saint-Just, Jean-Marc, tu dois savoir ça, toi? 700-800, OK. C'est qu'à Saint-Fabien, il y en a à peu près 1000. Saint-Magloire, combien il y en a? 580. 5, 6, comment?
780.
Ah, 780, parfait. On a un dictionnaire ici. OK. Mais OK. Donc, on prendrait ces trois villages-là, là, puis on n'est pas encore rendu à 3000. Là. Imaginez-vous, là. Ça veut dire que le haut côté, cette-là, là, c'est trop petit. Là. 3000 âmes qui arrivent en même temps. Alors, on comprend pourquoi les apôtres sont demeurés à Jérusalem. Parce que ces hommes-là allaient avoir besoin d'être nourris et enseignés. Imaginez-vous 3000 qui arrivent, qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne savent rien d'autre. Ils ne savent pas c'est quoi la justification, la sanctification, puis qu'il faut qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il nous a donné la sienne. Alors, c'est toutes des gens qui doivent être enseignés. Alors, les deux catégories de gens que je vous parlais tantôt, là, c'est-à-dire les Juifs puis les non-Juifs, comprennent, comme je vous disais, et acceptent toutes la même chose. À savoir, comme on lit dans Actes 4, 12, qu'il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel on devait être sauvé. Alors, tous ces gens-là croient la même chose. C'est dans leur marche ou dans leur façon de vivre leur nouvelle vie qu'ils sont différents, puis même parfois, ils sont en désaccord. Ce qui, inévitablement, va créer des oppositions au sein des chrétiens qui sont dans l'Église primitive. Il y a des Juifs religieux qui voient les choses différemment, puis il y a des chrétiens non-juifs qui voient les choses aussi d'un autre œil. Mais là, ces gens-là sont tous dans la même Église. Là. Imaginez, juste un petit peu, on fait un voyage dans le temps, là. On se ramasse en ce temps-là dans cette Église-là, où les apôtres sont là, puis il faut qu'ils enseignent ces gens-là. Maintenant, tournez avec moi, si vous voulez, dans Actes 21, verset 17. On va justement voir pourquoi les Juifs religieux voyaient les choses différemment des chrétiens non-juifs. Alors, Actes 21, verset 17. Là, ici, on est à la fin du troisième voyage missionnaire de Paul. Juste avant ça, Paul, il était en train de se diriger vers Jérusalem. Puis dans Actes 20, 16, on lit que Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Alors, Paul, il ne veut pas arrêter ce qu'à Éphèse, parce que ça risque de prendre trop de temps. Mais il a fait une halte à Milet, puis Paul, il va laisser aux anciens d'Éphèse un message que d'adieu. Puis il va leur donner une exhortation aux anciens d'Éphèse, une exhortation à protéger le troupeau contre les loups cruels. Et tous ceux qui sont en charge dans une église se doivent de se rappeler de ces exhortations-là que Paul avait laissées aux anciens d'Éphèse à Milet. Puis un jour, je vais vous en parler de cette chose-là. Alors, on est dans Actes 21, 17. Là, c'est là que Paul s'est rendu. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Ça pouvait causer un méchant paquet de problèmes à Jérusalem. Ça. Alors, Jacques, il dit, « Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leur détance, à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. » Ça avait été décidé pendant le concile de Jérusalem dans Acte 15. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Bon. Alors, Paul, c'est ça qu'il vient d'entendre. Alors, mettez-vous un petit peu dans les sandales de Paul, parce qu'en ce temps-là, je sais qu'il ne devait pas avoir des méchouillés trop, c'était des sandales. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Paul, après avoir entendu ça? Paul vient d'apprendre par la bouche des anciens de l'Église de Jérusalem combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Voyez-vous, ça, c'est la raison pour laquelle les chrétiens juifs voyaient les choses différemment des chrétiens non-juifs. Toujours à cause de cette loi-là qui les avait formés, si on veut, les juifs. Avant de venir au Seigneur, eux autres marchaient par la loi. Là, ils sont venus au Seigneur, mais c'est comme s'il y avait encore la loi sur le dos. Puis, il ne voulait pas s'en débarrasser de cette loi-là. Alors, l'ennui, ce n'est pas que les Juifs aient cru. Parce que ça, c'est merveilleux que des milliers de Juifs aient cru. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Puis, il avait spécifié à ses disciples, quand on lit Matthieu 10, verset 5, Jésus y avait dit, « N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça ne voulait pas dire que Jésus interdisait de prêcher aux non-juifs ou aux Samaritains s'ils en rencontraient. Mais il lui demandait d'apporter le message en premier lieu au peuple de l'Alliance, c'est-à-dire aux Juifs premièrement. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu, premièrement, c'était pour annoncer l'Évangile aux Juifs. Mais il ne s'est pas limité à ça. Mais premièrement, le message était réservé pour eux. Puis c'est ce que Jésus a aussi voulu dire un jour. Il y a une femme syro-phénicienne dans Marc 7 qui demandait à Jésus de chasser le démon hors de... Ah, mais sa fille. Puis là, Jésus, il lui répond, il dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Le pain des enfants, ça représentait les bénédictions offertes par Dieu aux Juifs. Puis les petits chiens, ça représentait les non-Juifs. Juste ça. On n'ira pas plus loin que ça. C'est ça que ça voulait dire. Donc, la difficulté, ce n'était pas que des milliers de Juifs avaient cru, mais que c'est qu'ils soient toujours zélés pour la loi. Cette loi avait eu aucun impact pour leur salut. Est-ce qu'on est sauvé par la loi? Est-ce qu'on est sauvé en faisant des œuvres? Est-ce qu'on est sauvé en respectant ce que Moïse avait dit dans la loi? On est sauvé comment? Par la grâce et en croyant, par la foi, et on reconnaît que c'est une grâce. Le salut, c'est ça. Il ne faut pas en mettre plus que ça, et il ne faut pas en ôter non plus. Le salut, c'est une question de foi et de grâce. Mais cette loi-là, qui n'avait eu aucun impact pour le salut des Juifs, c'était une cause de problème au niveau de la communion fraternelle dans l'Église primitive. Vous êtes toujours avec moi, là? Hein? Vous avez toutes vos sandales d'un pied, là? On est au début de l'Église primitive, là. Alors, durant tout son ministère, Paul y avait rapidement enseigné, en faisant tout le tour de pratiquement l'Europe actuelle, il avait enseigné que Christ était la fin de la loi pour quiconque croit. C'est qu'on a vu ça tantôt. Romains 10, 14. Paul avait dit aussi que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3:10. Que nul n'était justifié devant Dieu par la loi. Galates 3:11. Que ni la circoncision ni l'incirconcision n'avaient de valeur, mais seulement la foi agissant par l'amour. Galates 5:6. Si un homme recevait la circoncision comme un moyen de justification, s'il pensait que parce qu'il était circoncis, ça l'amenait au salut, bien, ça le retranchait du salut en Jésus-Christ. Il a également enseigné que de retourner au type et aux ombres de la loi, après la venue du Seigneur, c'était un déshonneur pour le Seigneur. Romains 2, 23, il dit, « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Alors, ayant répandu cet enseignement-là, ben Paul, probablement que lorsqu'il retournait à Jérusalem, il devait avoir l'intention de mettre fin à l'influence du judaïsme comme il était vécu encore dans l'Église primitive. Paul savait très bien que toutes ces pratiques-là appartenaient à l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, puis que selon les principes du Nouveau Testament, toutes ces choses-là pouvaient être abandonnées. Mais, on est à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte, la capitale du pays de Juda, de la Judée, de la Palestine et des Juifs répandus dans le monde. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Être à Jérusalem, c'est être assis sur une bombe. C'était vrai dans ce temps-là et c'est encore vrai aujourd'hui. Juste à regarder le conflit, Israël puis la Palestine, c'est la bande de Megaza, c'est fou raide, là. Mais c'est ça quand même, là. Ça, c'est des conséquences de ce qui s'est passé il y a des milliers puis des milliers d'années. Mais il semblerait que les responsables de l'Église de Jérusalem y avaient eu de sérieux problèmes d'adaptation lorsque l'Église a été implantée. Tranquillement, il y avait quelque chose là qui accrochait encore. Au point que certains commentateurs, ça c'est la pensée de certains commentateurs, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux autres, mais certains commentateurs ont quand même qualifié l'Église primitive d'Église incurable. Ils voulaient dire là qu'eux étaient incapables de faire la transition entre la loi et la grâce. Je vous dis pas qu'ils rejetaient que la grâce. Les gens avaient compris que pour être sauvés, c'était une question de grâce que Dieu nous avait faite. Mais comme je vous disais, la loi était toujours dans le sac. Vous comprenez? On est sauvés par grâce, on le sait. Mais je peux pas croire qu'on va arrêter de circoncire nos jeunes enfants, là, tu sais. Bon, alors, on essaye de se mettre dans le pot, eux autres. Paul respectueux qui était envers le gouvernement de l'Église de Jérusalem. Puis, il ne voulait pas causer de troubles au sein de l'Église non plus. Il va tenir compte du conseil des anciens. On lit ça, là. Alors, Paul prit ses hommes, au verset 26, acte 21. Il se purifie, il entre le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Alors, Paul, il se plie à ça. Mais le conseil qui lui avait été donné a quand même placé l'apôtre dans une situation problématique. Paul, qui n'arrête pas de prêcher le salut par grâce, là, avec Jean, qui est en train de faire qu'est-ce que la loi, est, il dit, on voudrait, nous autres, que les Juifs de la place comprennent que tu es encore respectueux de la loi. Puis c'est correct, là. Il ne faut pas dire, ah, il n'y a plus rien de bon dans que la loi. La loi, c'était quand même bon, c'était juste, c'était saint, ça venait de Dieu. Mais pour le salut, ça coûte pas cher, ça vaut pas cher. Alors, l'action que Paul a prise en prenant sur lui ce vœu juif-là, ça l'a été et défendu et critiqué. Autrement dit, ce que Paul a fait, il y en a qui sont « oui, je suis d'accord avec ça », d'autres qui disent « non, moi je suis en désaccord avec ça ». Il y en a qui vont le défendre dans le sens qu'à cause de son arrière-plan juif, Paul y avait déjà fait un vœu dans Acte 18-18. C'est qu'on n'est pas loin, si vous voulez tourner là. Acte chapitre 18, verset 18. Acte 18-18, on lit « Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarquant pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. » Il y a certains commentateurs qui sont divisés sur cette question-là en disant qu'à cause de la maturité spirituelle de Paul, ce serait beaucoup plus Aquilas qui se serait fait raser la tête en reconnaissance à Dieu de l'avoir aidé lors des difficultés qu'il avait éprouvées à Corinthe. Mais on n'a aucun moyen de trancher définitivement la question. Est-ce que c'est Paul qui s'est fait raser la tête? Est-ce que c'est Aquilas? On ne le sait pas. Selon certaines interprétations, il y en a qui vont dire que c'est Paul, d'autres vont dire non. Paul avait trop de maturité spirituelle pour faire un geste de même. Donc, ça devait être Aquilas. Mais on n'a pas moyen de m'étrancher ça définitivement. Mais à la défense de Paul, on peut dire qu'il pratiquait ce qu'il avait déjà dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20, nous dit ceci. Paul, il dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Alors ça, c'était pour la défense que de Paul. Mais il y en a aussi qui l'ont critiqué pour être allé trop loin dans ses efforts pour concilier les Juifs et donner l'impression qu'il était sous la loi. Mais d'une façon ou l'autre, qu'on soit du côté de la défense ou de la critique, il faut être prudent dans le jugement des actions de Paul. Les étapes que Paul a prises ne sont pas claires pour nous aujourd'hui. Puis, on doit surtout se rappeler un principe qu'on retrouve dans Romains 14, 4, qui nous dit « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Ça, c'est le principe. Il y a beaucoup de choses que des chrétiens peuvent poser comme gestes qui vont nous déboussoler. « Ben, arrête, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. » Mais si lui, il l'a fait, il devait avoir sa raison. Alors, il faut être très prudent et on n'est pas appelé à porter de jugement sur un serviteur de Dieu lorsqu'il pose un geste que je ne comprends pas. Vous me suivez, là? Oh oui! Alors, chaque croyant est un serviteur du Seigneur et personne n'a le droit de porter un jugement comme si c'était lui le maître. Lorsqu'on porte un jugement sur le comportement d'un autre, c'est comme si c'était nous le maître qui va décider que ce que tu fais, c'est bien ou ce que tu fais, c'est pas bien. C'est devant notre propre maître que chacun de nous, on va se tenir pour être approuvé ou désapprouvé. Chacun de nous, on va se tenir devant Dieu pour recevoir soit la récompense ou pas de récompense. C'est lui qui va décider. C'est lui le maître. Mais ce n'est pas moi qui va juger si un mérite une chose ou un autre n'en méritera pas. Alors Dieu, dans sa souveraineté, fait en sorte que peu importe les actions du serviteur, sa volonté va s'effectuer toujours. Croyez-vous ça? La volonté de Dieu va toujours être accomplie, peu importe ce que les serviteurs vont faire. Et peu importe mon jugement, ce que je ne devrais pas avoir, mais si moi je pense qu'il a mal fait ou il a bien fait, ce n'est pas à moi de décider ça. Alors, regardez ce qu'on lit dans Actes 21, verset 27. À la fin des sept jours, ça veut dire à la fin du vœu que Paul avait fait avec les quatre autres hommes. À la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Alors, au même moment où le vœu s'achevait, Dieu permet que Paul soit empêché d'être tué parce que c'est ça que les Juifs d'Asie voulaient faire. On lit ça dans verset 31. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Alors, à l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors, Dieu va autoriser les Juifs à arrêter Paul. Il va autoriser les Romains à l'emprisonner. Et dans la prison, où Paul n'avait plus rien d'autre à faire, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il va écrire le tiers de ses lettres qui s'appellent les épîtres de la captivité. Et là, il va donner à l'Église une vision encore plus claire et plus profonde des enseignements du Nouveau Testament. Les épîtres de la captivité, entre autres, c'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. C'est en prison que Paul a écrit ça. Et lorsqu'on voit toute la richesse du texte qu'il y a dans ça, bien, on réalise que, coudonc, Paul, il n'a jamais perdu son temps lorsqu'il était en prison, et Dieu a encore été glorifié dans ça. Même si Paul était en prison, ne pouvant plus rien faire d'autre, il ne pouvait plus faire d'évangélisation puis aller visiter les églises, ce qu'il a fait, il a écrit des lettres, les épîtres de la captivité, le tiers de ces épîtres. Alors, ça ne veut pas dire ça que Dieu avait toléré le vœu de Naziréa, parce que finalement, ce que le vœu que Paul a fait avec les autres hommes, c'était un vœu de Naziréa qui se trouve à être un engagement de séparation et de consécration à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on faisait ça souvent. Mais demeurer dans ce mélange-là de pratiques judaïsme avec le Nouveau Testament, ça, Dieu, il ne l'a pas permis. Il l'a permis un petit bout de temps, mais ça l'a arrêté de prendre place, cette chose-là, là, parce qu'environ 10 ans plus tard, je ne sais pas si vous vous souvenez de quelle histoire, mais Dieu a mis fin à la confusion en permettant à Titus et à son armée romaine de détruire Jérusalem, le temple de Jérusalem, le centre du judaïsme en 70. Donc, l'Église chrétienne, en ce temps-là, elle a été séparée et sauvée des ravages causés par le judaïsme, la religion juive. C'est extraordinaire, hein? Mais il a fallu quand même que Dieu permette qu'un général romain entre dans Jérusalem, il brûle tout ça, il me sac tout ça à terre, le temple compris. Alors, tout le judaïsme, c'est comme s'il venait de s'effondrer. Il ne s'est pas effondré, mais ça a quand même eu un impact positif pour la vie chrétienne des chrétiens de ce temps-là. Alors, la poche de loi qui traînait sur le dos, là, c'est comme si on dit, bon, on va la laisser aller. Donc, Paul, il en a fait plus à écrire dans sa prison que d'accomplir le vœu suggéré par Jacques pour convaincre des Juifs qui étaient zélés pour la loi. C'est comme ça que Dieu marche. Dieu va défaire nos projets bien souvent, nos contacts, nos liens, pour faire des choses comme lui, il veut. Enlever l'attrait du judaïsme au sein de l'Église primitive, c'était quelque chose de pratiquement irréalisable pour les êtres humains. Mais Dieu a juste permis que l'armée romaine arrive dans Jérusalem, fasse une razzia dans ça, et on a été libérés du judaïsme. Chez les chrétiens, je parle. Parce que les vrais Juifs d'aujourd'hui, qui sont accrochés à leur religion, ils tiennent encore fort. Là. Mais moi, je parle toujours en fonction de mes chrétiens. OK? Fait qu'avez-vous aimé que votre voyage?
Oui, vraiment.
On revient en 2025. Fin de notre voyage dans le temps. Est-ce que les choses ont changé depuis ce temps-là? Il y en a qui disent non. Moi, j'ai comme tendance à dire pas vraiment. Les choses n'ont pas vraiment changé. L'Église évangélique d'aujourd'hui a peut-être pu à lutter contre cette hérésie qui va mélanger la loi et la foi. C'est assez clair pour nous aujourd'hui. Mais de nos jours, le problème se situe plutôt dans les Églises évangéliques entre le libéralisme qui existe dans certains milieux et le légalisme qui existe dans d'autres. Autrement dit, le libéralisme, c'est « tu as le droit de tout faire ». Le légalisme, tu as le droit de rien faire. Non, mais c'est aussi… L'être humain est comme ça. On part d'une extrémité, on va dans l'autre, on a oublié qu'il y avait un centre. Alors, c'est ça, comme ça que ça marche. Alors, on a autant besoin de sagesse aujourd'hui qu'il en avait besoin en ce temps-là, dans le temps de l'Église primitive. Puis la mise en garde demeure toujours et demeurait la même à travers tous les siècles. L'apôtre Pierre avait déjà dit dans 1 Pierre 5,8, vous devez connaître ce passage-là par cœur, sûrement. 1 Pierre 5,8, on lit, Pierre, il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que notre ennemi, le diable, Satan, a toujours été là, est encore là et sera toujours à l'assaut pour tenter de détruire les liens entre croyants. Ça, c'est son but ultime. Il sait parfaitement bien qu'il ne peut pas nous faire perdre le salut parce que c'est une chose qu'on a pour l'éternité. Il ne peut pas nous faire perdre le salut. Mais s'il peut réussir à nous faire perdre la communion, c'est déjà une pas pire affaire. S'il peut réussir à mettre la bisbée dans des églises qui font en sorte qu'ils peuvent passer de 300 membres à 100, ça va être une pas pire affaire aussi, parce qu'il y en a une méchante gang qui sont rendus ailleurs. Alors, voyez-vous, tout son jeu, lui-là, là, son but, c'est d'écraser, de persécuter et de décourager les croyants. C'est ça son but. Mais il faut le connaître. Il faut savoir que c'est ça qu'il veut faire. Lui, il veut semer la discorde en accusant Dieu, parce que Satan, il est fou raide. Accuser Dieu devant les hommes. Accuser les hommes devant Dieu ou accuser les hommes entre eux. S'il est capable de faire ça, lui, c'est parfait, là. C'est son but de briser la communion. Il va tout faire pour la briser entre les croyants puis leur Seigneur et entre les croyants eux-mêmes. Alors, rappelons-nous tout ce qu'on peut voir dans les écrits, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Comment Dieu s'y prend pour conserver l'unité? Des fois, il va falloir qu'il donne un coup d'hache dans des affaires qu'on tient à cœur pour que plus tard, on se rende compte que c'était pour notre bien. Heureusement que Dieu a agi comme ça. Sinon, on serait encore accrochés à nos bebelles. Alors, comme je vous disais tantôt, là, soyons sobres, veillons, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et on est appelé à lui résister avec une foi ferme. Alors que le Seigneur nous aide à mettre ça en pratique, qu'il nous donne la force de comprendre, puis la force de poser des gestes qui vont faire en sorte que la communion va se rétablir. Il n'y a rien de plus triste qu'une communauté de croyants qui perd la communion entre elles. Il n'y a rien de plus triste que ça. Il ne sera jamais capable, je parle du diable, il ne sera jamais capable de nous faire perdre notre salut, mais il est toujours capable de nous faire perdre la communion. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est tellement heureux de ce que tu nous as laissé, tout ce que nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire pour notre compréhension, afin de garder l'unité entre croyants. Seigneur, on te prie, on te supplie même de nous donner toute la sagesse nécessaire pour poser les gestes concrets qui vont faire en sorte que nous allons être unis et demeurer unis jusqu'à ton retour. Et c'est pour la gloire et au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.